Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisette des Cyprinettes Vouguettes. Une troisette un peu spéciale parce que oui, Chloé n'est pas là, mais ne vous inquiétez pas. Grâce à la nouvelle technologie et aux mains de fées de Marie-Jeanne, que je salue au passage.
Salut Mimi.
Vous aurez quand même droit aux belles histoires de Tata Chloé. Ensuite, nous aurons une interview de Marie Prince, secrétaire générale du syndicat du travail sexuel, le STRAS, à Toulouse. Avec Chloé, nous allons nous battre dans la boue. Et oui, pour vous, on ose le faire. Et nous allons avoir des bas et des hauts. Oh, oui. Et pour clore cette troisette, la boîte de Pandora avec quelques anonymes qui sont passés par là. Le je déteste revient. Et quelques morceaux de zig par-ci par-là. Allez, assez tergiversé, place aux histoires de Tata Chloé. En même temps, c'est vachement bien qu'elle soit pas là parce qu'on va pouvoir dire plein de trucs sur elle.
Ah bah c'est déjà fait. Hein.
Ouais, mais grave, on n'a pas arrêté toute la matinée. D'ailleurs, Chloé, si tu nous entends, on s'est bien marré.
Ah oui.
Et elle pourra même pas répondre en plus.
Salut les loulous. Salut les louloutes. Et bienvenue. Bienvenue dans les belles histoires de Tata Chloé. Installez-vous. Installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Et n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je vous reçois chez moi pour une émission spéciale. Vous êtes bien là? Vous le sentez, hein? Vous le sentez bien, mon gros cliché? Eh oui, désolé de vous freiner dans vos ardeurs, mais on est là pour vous les briser, les clichés. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous propose une chronique un peu olé olé, tant sur le fond que sur la forme. J'ai pas pu me déplacer à la radio, donc j'enregistre chez moi avec le Zoom que Nicolas m'a gentiment prêté. Merci Nicolas. Donc je m'excuse par avance pour la piteuse qualité du son et ne blâmez surtout pas notre sainte Marie-Jeanne qui fait des miracles pour nous en temps normal. Merci Marie. Et donc aujourd'hui, le sujet de l'émission porte sur la prostitution. Alors je vous propose en préliminaire un petit aperçu des origines historiques de celle-ci. Réputé être le plus vieux métier du monde, la prostitution ou commerce sexuel, est signalé pour la première fois en Occident dans les plus anciens écrits connus, les tablettes de Gilgamesh, roi d'Uruk, une cité de Mésopotamie. À Babylone, se pratique ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Les jeunes filles de la ville se doivent de vendre leur charme au moins une fois dans leur vie, dans le temple de la déesse Ishtar, pour le bénéfice de celle-ci et de son clergé. On les appelle Ishtaritu. Cette prostitution sacrée se pratique en d'autres lieux, y compris à Jérusalem, où elle est d'ailleurs abolie par le roi Josias, vers 640 avant Jésus-Christ, et où l'on voit que la morale se mêle à l'histoire de la prostitution, parce que ce roi Josias en profite pour imposer par la même occasion le monothéisme. À Athènes, le réformateur Solon, irrité par les débordements publics dans les quartiers du Céramique et du Pirée où sévit la prostitution, impose la claustration des prostituées dans des maisons closes, les dictérions. Les prostituées étaient placées sous la haute protection de Vénus et elles étaient l'objet d'une surveillance municipale. À Rome, ces maisons closes prennent le nom de lupanar, d'après le surnom donné aux prostituées lupa, en latin louve. La prostitution sévit aussi dans le quartier populaire du Trastevère, mais aussi sous les passages voûtés qui entourent le Champ de Mars et qui s'appellent en latin fornix, d'où le mot actuel fornication, pour désigner les rapports hors mariage. Après, beaucoup plus tard, en France, le roi Louis IX, le futur Saint-Louis, renouvelle l'obligation pour les prostituées de pratiquer leur art dans des lieux clos. et ces lieux clos étant à Paris, situés au bord de la Seine, dans les faubourgs, ils prennent le nom de bordel. Très en vogue à la belle époque, à la fin du XIXe siècle, les maisons closes sont en France fermées sur injonction d'une ancienne prostituée, Marthe Richard, le 13 avril 1946. Alors cette Marthe Richard, qui c'est ? Qui dit plus vieux métier du monde, dit aussi plus vieux débat du monde. L'histoire de la prostitution, c'est aussi celle d'une longue valse, hésitation du pouvoir politique entre tolérance, morale, répression. L'actuel débat sur la pénalisation des clients n'est qu'un épisode de plus d'un débat qui prit un tournant décisif en 1946 avec la fermeture rocambolesque des fameuses maisons de tolérance, les maisons closes. Une loi qui porte pour à jamais le nom de son inspiratrice, Marthe Richard, un personnage haut en couleur s'il en est, a réussi à les fermer. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu plus de cette intrigante Marthe Richard. Marthe Richard, fille de joie, aviatrice, espionne et deux fois veuve. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la femme qui parvint à pousser l'Assemblée nationale à voter dans l'immédiate après-guerre la fermeture d'un bon millier de maisons closes n'est pas facile à suivre. Née dans une famille modeste, Marthe n'a pas 17 ans quand la police l'inscrit au fichier national de la prostitution en 1905. La jeune fille tapine alors autour des casernes de Nancy. Une fille à soldat, à 3 francs la passe et 50 passes par jour parmi tant d'autres. Atteinte de syphilis et signalée comme telle en préfecture, Marthe est renvoyée par son souteneur. Elle quitte la région pour Paris, où elle arrive en 1907. Là, elle y entre dans un bordel plus huppé. Un industriel, Henri Richer, tombe raide dingue de la jeune fille et l'épouse séance tenante avant de mourir au front en 1916. À 27 ans, Marthe Richard est veuve, riche et libre. Pendant toute la belle époque, la jeune femme s'est essayée à l'aviation. Elle est même devenue une pilote émérite et casse-cou, mais légèrement menteuse, voire affabulatrice. Elle triche en beauté pour tenter de faire croire aux journaux qu'elle a battu le record féminin de distance. Effectivement, elle y a participé, elle a fait une partie du trajet en train. Dans l'entre-deux-guerres, second mariage de Marthe Richard avec Mr. Crompton, un dirigeant anglais de la fondation Rockefeller. Las, le cher homme meurt 2 ans plus tard, 2 fois veuve. Et pour toujours à l'abri du besoin, Marthe Richard fait alors des pieds et des mains pour faire effacer la seule tâche qui pèse sur son parcours, la mention de son nom sur le registre national de la prostitution. Alors hélas, pour elle, même les relations, tout ce qu'il y a d'intime qu'elle noue avec Édouard Herriot n'y font rien. La police des mœurs reste inflexible. Pour elle, Marthe Richard reste une prostituée. Riche, oui. Indépendante, oui. Mais respectable, pas pour tout le monde. Ce qui la mine. Alors la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt une période floue en ce qui la concerne. Mythomane pour certains, résistante héroïque pour d'autres, Marthe Richard est en tout cas extrêmement douée pour faire parler d'elle. Au terme du conflit, elle se présente partout comme une espionne et une résistante de la première heure. Fascinée par le personnage, la presse adhère. C'était un petit passage de mon chien. Je continue. Marie, je pense que tu pourras couper. Notoriété oblige, différentes associations la choisissent pour en faire leur porte-parole. Dans la ligne de mire de Marthe Richard, un programme, et un pléonasme d'ailleurs, la fermeture des maisons closes. Ah, les maisons closes, toute une époque. Les lupanards, les boxons, les clandés, les bobinards, les claques. Autant de mots d'argot qui révèlent indirectement le rôle de ces lieux de prostitution encadrés et réglementés, dont on peine à s'imaginer l'importance. La visite du deuxième étage du musée de l'érotisme à Pigalle est d'ailleurs recommandée sur ce point. Paris seul compte en 1946 près de 200 bordels où travaillent très officiellement plus de 1500 prostituées. Pour les autorités, le bon terme est celui de « maison de tolérance ». Un même mot pour désigner des bordels de toute catégorie, de l'abominable lieu d'abattage aux boxifs les plus huppés de la capitale, du 1-2-2 au Sphinx, en passant par le Chabanais, couru par la meilleure société, masculine, s'entend, du moins dans les étages. Dans certains cas, les maisons closes font également cabaret, et le tout Paris s'y presse au grand jour, dans des décors parfois surréalistes de kitsch. Le 1-2-2 accueille régulièrement Guitry ou Gabin, mais aussi Colette ou Marlène Dietrich. Les établissements, signalés par une lanterne rouge, sont fréquentés par une clientèle variée. Des jeunes gens timides venus s'initier aux éclopés de guerre, en passant par les veufs en mal d'affection ou des maris discrets. On estime à plus de 700 le nombre de maisons closes ouvertes en France dans l'après-guerre, soigneusement recensé par les autorités et taxé comme c'est pas permis. L'État récupère jusqu'à 60% des bénéfices. Alors il est quand même à noter que Marthe Richard n'a jamais voté la loi qui porte son nom. Et pour cause, elle n'a jamais été députée. C'est en tant que conseillère municipale de Paris qu'elle commence son combat, et d'abord concentrée sur la seule capitale. Les arguments qu'elle évoque n'ont pas beaucoup changé tout au long de son combat. Ce n'est pas tant la prostitution qu'attaque Marthe Richard que son exploitation commerciale par des tiers et son contrôle tatillon par les autorités. Elle est bien placée pour avoir dans le nez la brigade des mœurs, notamment. Des mauvaises langues ne tardent évidemment pas à dresser le lien entre l'acharnement de Marthe Richard et son passé. Entre autres, la « veuve qui clôt » de son surnom réclame à corps et à cri la disparition de ce fichier de la prostitution où son nom figure toujours. Alors après des débats aussi houleux que ceux qui s'annoncent aujourd'hui ou demain, le préfet de la Seine annonce la fermeture des boxifs du département. Il n'en faut pas plus à Marthe pour passer à l'échelon supérieur. Le 13 avril 1946, les députés adoptent la loi numéro 46685 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme. Son article 5 ordonne la destruction du fichier national de la prostitution. Mais Marthe Richard changea d'avis ensuite. Que les habitués et les clients s'en désespèrent est une chose, mais la loi, une fois votée, de fait, mais surtout brutalement sur le trottoir des milliers de jeunes femmes, que personne ne se préoccupe d'aider. Alors du cadre, sans doute glauque, mais relativement sécurisé des maisons closes, les prostituées passent à la rue, avec ses dangers, sa précarité et sa misère. C'en est au point que Marthe Richard elle-même fera machine arrière et militera pour la réouverture des bordels de 1951 à sa mort. Elle militera même pour le recrutement de prostituées dotées d'un statut de fonctionnaire. Mes sources aujourd'hui, vous pouvez trouver les deux articles dont je vous ai lu des extraits sur le site herodote.net et le blog de France TV Info. Et la pastille sonore est tirée des archives de l'INA.
Notre page rétro maintenant. Tous les soirs, vous le savez, nous vous proposons une petite balade 20 ans en arrière. Que se passait-il à Paris en août 73? Eh bien, cet été-là, on a pu voir pour la première fois à la télévision un débat sur la prostitution. La grande question de l'époque, c'était de savoir s'il fallait rouvrir les maisons closes au moment où en Allemagne, les Eros-Center faisaient un tabac. Et sur ce plateau de télévision, eh bien, on retrouvait justement Marthe Richard, dont le nom était associé à la fermeture des maisons closes, Pierre Duclos.
Qu'il neige ou qu'il vente, aussitôt que la nuit descend, on ouvre la porte si provocante, offrant du bonheur aux passants.
Image récente, chanson des années 30 interprétée par Fréhel, et dans l'intervalle, débat sur la prostitution. En août 1973, la deuxième chaîne de télévision faisait événement en réunissant sur ce thème une représentante du plus vieux métier du monde et Marthe Richard, désormais favorable à l'ouverture des maisons closes, jadis fermées grâce à elle.
Puisqu'on ne peut pas empêcher la prostitution, elle existe depuis tout le temps, alors puisqu'il en faut, alors, mettons pour le moindre mal. Et ça, c'est le moindre mal. C'est mieux que de voir les femmes aux portes des hôtels, dans les rues.
Voilà pourquoi il faut modifier certaines lois. Et voilà pourquoi je vous ai contacté. Et oui, et vous les avez fait fermer, à moins de les faire ouvrir, mais c'est pas facile. Hein.
Moi, je préconise que des maisons soient construites, mais pas une maison seule, non. Des petites maisons dans un grand parc.
Oui, oui, où elles vont uniquement travailler.
Voilà.
En somme, vous êtes en train de monter un syndicat des dames de petite vertu.
Oh, pas de syndicat. Les syndicats sont toujours à but politique. Une association à but non lucratif. Parce que, je veux dire, une corporation, si on est groupé ensemble, on a plus de...
De poids.
De poids, oui, que si on est isolé, chacune de son côté, à se tirer dans les pattes et à ne pas savoir comment faire. On a aussi nos petits problèmes à discuter, ne serait-ce par exemple que s'il faut augmenter le tarif, selon le coût de la vie.
Pourquoi vous prostituez-vous?
Moi? Très bien, parce que c'était le seul moyen que j'avais de gagner de l'argent, de subvenir aux frais d'éducation de mon fils, et puis de vivre indépendante de tout le monde. Les femmes en France, quand elles sont chefs de famille et qu'elles doivent se débrouiller avec 800 ou 900 francs par mois, vous pouvez toujours courir avec des enfants encore.
C'est une vocation?
Une vocation? Oh ben dites, faut-il vous dire la vérité? Faut-il vous dire que toutes ces filles ont horreur de cela, pour ne pas reculer devant le mot? Que ça les dégoûte en plus, qu'elles se tapent des crises de nerfs, le jour, le soir, quand elles travaillent là. Si les
Catalogue des prix d'amour de Mademoiselle Marcel Lapompe. Tarif 1915, annulant tous les précédents. Branlette ordinaire, 33 francs. Avec chatouille des coulisses, 1 franc 75. Petit doigt dans le trou du cul, 50 centimes. Le médium, 12 centimes. Baisage en levrette, avec liquette, 5 francs 85, sans liquette, 5 francs 45, minette le soir, 3 francs, branlage à la mouche, recette. Une fois déshabillé, vous attrapez une grosse mouche de laquelle vous enlevez les ailes, puis une fois dans la baignoire, vous faites sortir la tête de votre gnagnin que vous décalotez, puis vous posez la mouche dessus. La pauvre bestiole tourne autour. Pissette sur la quéquette, 5 francs 45. L'homme bien assis sur la chaise, les jambes bien allongées. La femme à cheval dessus. L'orifice tout près du membre visiteur. L'homme levant la femme à deux mains par les flancs à la hauteur des hanches. En faisant une brusque pression, il arrête le jet à sa volonté. Jusqu'au moment où n'en pouvons plus, il se jette dans l'antre torride de plaisir.
Bien que ces vaches de bourgeois,
bien que ces vaches de bourgeois,
nous appellent des filles de joie,
nous appellent des filles de joie.
C'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'on rigole. Car même avec des pieds de grue,
car même avec des pieds de grue,
perlissant pas le long des rues,
perlissant pas le long des rues,
c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement on a des cordes,
non seulement on a des cordes,
des œils de perdre, mais encore,
des œils de perdre, mais encore,
c'est tout ce qu'on use de grolle, parole, parole, c'est tout ce qu'on use de grolle.
Y a des salauds
qui se trempent jamais dans l'eau,
qui se trempent jamais dans l'eau.
Il faut pourtant qu'on les cajole, parole, parole. Il faut pourtant qu'on les cajole.
et trucs venus d'ailleurs. Aujourd'hui, dans les trucs venus d'ailleurs, nous aurons Marie Prince, secrétaire générale du syndicat du travail sexuel à Toulouse. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe, un appel à manifester a été lancé. Le 17 décembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Agression, répression, exploitation, expulsion, viol, meurtre. Si ces violences ne nous sont pas particulières, elles n'en restent pas moins favorisées par un cadre juridique qui nous pénalise spécifiquement. Criminalisés par les lois contre le racolage et le proxénétisme qui favorisent notre exploitation, nous devons aussi lutter depuis plusieurs années contre le projet de loi de pénalisation des clients et faire face à une avalanche d'arrêtés municipaux anti-prostitution. Sous couvert de lutter contre l'exploitation des travailleurs et travailleuses du sexe, c'est la répression de ces dernières qui s'organise avec ses conséquences en termes de précarisation, d'augmentation des violences et de dégradation de notre santé. Notre vulnérabilité aux violences et à l'exploitation ne sera pas combattue par des mesures punitives et policières, mais par l'organisation des travailleuses du sexe en lutte, une organisation aujourd'hui entravée par notre criminalisation. Plutôt qu'un conditionnement des maigres aides sociales à l'arrêt de la prostitution, plutôt qu'un tour de passe-passe entre l'abrogation du délit de racolage et de pénalisation des clients, et plutôt que des titres de séjour précaires, nous défendons l'accès aux droits pour toutes et pour tous. Des régularisations qui permettent notamment l'accès à la justice pour les victimes de violences ou d'exploitation et l'abrogation immédiate du délit de racolage et des arrêts municipaux interdisant l'espace public des travailleurs et travailleuses du sexe. Parce que ces politiques s'inscrivent dans une dynamique de gestion raciste, sexiste et sécuritaire de la société, nous voulons aussi dénoncer en ce 17 décembre le traitement inhumain qui est réservé aux réfugiés par l'État français, ainsi que l'instauration par celui-ci d'un état d'urgence dont la fonction principale est de faire taire toute contestation sociale, arrestation arbitraire, perquisition, garde à vue, interdiction de séjour, autant de choses que les travailleurs et travailleuses du sexe subissent régulièrement. Autant de raisons de nous inscrire aujourd'hui en solidarité avec toutes celles et ceux qui subissent ces maux. Donc, il y a un rassemblement le 17 décembre 2015 à Toulouse, place Belfort à 18h, et vous avez aussi un rassemblement à Paris 19e, place Jean Rostand à 17h. Donc, en fait, cet appel, c'est un appel que j'ai trouvé sur le site du STRAS. Donc vous pouvez y aller jeter un œil, c'est stras-du-6syndicat.org. Ben, salut Marie, bienvenue sur Radio Larzac dans l'émission Les Cyprinettes vous guettent. Eh bien voilà, est-ce que tu peux pour commencer te présenter, nous dire qui tu es ?
Oui, tout à fait. Donc je suis Marie Prin, donc je suis la secrétaire générale du STRAS, du syndicat du travail sexuel. Donc je suis également travailleuse du sexe, puisqu'en fait dans le syndicat il n'y a que des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe. Voilà.
D'accord. Donc l'émission là, des Cyprinettes, justement, elle est portée sur la prostitution. Et il me semblait intéressant de contacter le STRAS à Toulouse, puisque ben, Millau, ça dépend de l'académie, de la région Midi-Pyrénées. Et en fait, c'est aussi un peu parce que le 17 décembre, il y a une marche de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Moi, j'ai lu l'appel un petit peu avant. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette organisation ?
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que je suis sur la région toulousaine. Et effectivement, le 17 décembre, en fait, c'est on a deux dates au niveau des travailleuses du sexe. En fait, on a le 2 juin, qui est la commémoration des révoltes des travailleuses du sexe de 75. À Lyon qui s'est développé un peu partout en Europe ensuite, et on a le 17 décembre qui est la journée internationale de lutte contre les violences qui nous sont faites. Donc cette année, comme tous les ans depuis quelques temps, à Toulouse on organise une manifestation C'est vrai que ça a pas, nos revendications n'ont pas changé par rapport aux années passées, puisqu'en fait les violences qu'on subit s'aggravent plus qu'elles ne diminuent. Et mais elles prennent une couleur un peu particulière cette année avec l'état d'urgence et la criminalisation de la mobilisation sociale en général, hein, pas que de nous. Donc effectivement, on appelle à manifester donc contre les lois qui nous criminalisent, hein, c'est-à-dire les lois contre le racolage et les lois contre le proxénétisme, tout simplement parce que ça nous empêche de nous organiser, ça nous empêche de nous défendre. En fait, ça nous vulnérabilise plus que ça nous aide. Donc évidemment, ça aggrave notre situation et ça engendre des violences, notamment des violences policières, quand on est dans la rue, etc. Il y a aussi des arrêtés municipaux, que comme il y en a à Toulouse, mais il y en a aussi dans d'autres villes. Voilà, à peu près, c'est à peu près ça, en gros.
Est-ce que tu peux nous parler du STRAS un peu, depuis combien de temps
Ouais.
Voilà, depuis combien de temps il existe et qui peut venir, enfin voilà, quels sont un petit peu vos...
Alors le STRAS, en fait, il existe depuis 2009, donc c'est un syndicat assez récent. Il accueille en fait toutes les personnes travailleurs travailleuses du sexe, donc ce qui inclut évidemment ce qu'on appelle les escort girls, les escort boys, donc ça veut dire juste qu'on travaille via internet, les travailleuses du sexe de rue, les acteurs et actrices porno, les hôtesses de bars américains, les stripteaseuses, les webcameuses, donc qu'on appelle aussi sex cameuses. Les personnes aussi qui font du téléphone vote. Donc ça inclut en fait toutes les personnes qui travaillent en fait dans le avec leur corps, mais avec donc l'aspect sexuel de la chose. On use de notre sexualité pour travailler. Voilà. Et ensuite en termes de au STRAS, en fait en termes de personnes, c'est assez varié. En fait on a énormément de travailleuses de rue comme de travailleuses du net. Mais il faut savoir qu'actuellement, en fait, vu que le travail de rue est de plus en plus proscrit dans toutes les villes de France et même à la campagne, vu que on est dans une ambiance sociétale qui fait qu'il faut cacher la prostitution, il faut l'enlever des yeux du citoyen, on se retrouve à être énormément sur Internet. Donc actuellement, on est beaucoup plus nombreux sur Internet que dans la rue. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, on milite. Nous, nos principales revendications, comme je disais tout à l'heure, c'est la décriminalisation du travail sexuel, non pas pour que la prostitution devienne un travail comme un autre, mais tout simplement pour avoir accès aux droits communs. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que les lois sur contre le proxénétisme nous empêchent, par exemple, d'avoir accès au logement, nous empêchent tout un tas de droits fondamentaux que une personne lambda a. Donc nous, on veut accéder aux droits communs, par exemple le droit du travail aussi, pour pouvoir se défendre quand c'est exploité, et aussi le droit de s'organiser, parce que quand on regarde de plus près la loi contre le proxénétisme, si on vient en aide à une collègue, on devient sa proxénète, etc., etc. Donc, ce qui fait que tous nos actes quotidiens de solidarité entre nous vont être criminalisés par la loi sur le proxénétisme. Voilà. Et de même avec sur le racolage. En fait, que dit le cadre juridique actuel français? Il dit que le travail du sexe est légal, mais qu'on ne te donne aucun moyen de pouvoir l'exercer. C'est-à-dire que le racolage, que tu as un site internet ou des petites annonces sur internet ou que tu travailles dans la rue, c'est illégal. Et donc, en fait, en gros, la société te dit tu peux gagner de l'argent via un service sexuel tarifé, mais de toute manière, ton argent, il va devenir sale parce que dès que tu en feras profiter quelqu'un, il devient proxénète automatiquement. Donc, c'est pareil pour nos compagnes, nos compagnons, etc., etc. Donc, nous, on veut décriminaliser le travail sexuel pour accéder aux droits communs, pour pouvoir s'organiser et pouvoir lutter, en fait, et évidemment lutter en solidarité avec les autres personnes, les autres secteurs en lutte, parce que, certes, on est travailleur du sexe, mais on est aussi mère, il y a beaucoup de migrantes, en fait, au STRAS aussi, on est aussi étudiante, etc. Donc, nous, ce qu'on dit, battons-nous ensemble contre la précarité en général et pas contre la prostitution et contre, du coup, les travailleurs du sexe. Donc, il faut, voilà.
Ouais, parce que, en fait, avec toutes ces lois qui nous pondent là, c'est, directement, c'est vous qui êtes touchés, quoi. C'est pas le client ou la cliente qui va...
C'est vrai que j'ai pas parlé du projet de loi de pénalisation des clients. Alors effectivement, nous, on dénonce ce projet de loi pour la simple et bonne raison que pour nous, ça a exactement les mêmes, voire pire, les mêmes conséquences que la loi sur le racolage. Donc en fait, la gauche essaye de la gauche et même la droite, hein, en tout cas, essaye de se voiler derrière une démarche humaniste, une démarche sociale de protection de la prostituée face aux clients prostitueurs, etc., etc. C'est leurs mots, c'est leurs termes. Sauf que nous, la seule chose qu'on voit, c'est que on va avoir, on la constate déjà en fait, hein, suite au débat qu'il y a depuis plusieurs années, qu'on a une baisse de revenus parce qu'évidemment, les clients disparaissent, que du coup, en fait, le prix de la vie, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Donc, si nous, on a une baisse de revenus face à une augmentation du coût de la vie que tout le monde connaît, il va bien falloir qu'on continue à payer nos loyers, à remplir nos frigos, à nourrir nos enfants, etc. Donc, on va se mettre en danger pour pouvoir, et donc, du coup, accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées auparavant, puisque, en fait, les clients se raréfient, on a une baisse de revenus, et du coup, dans la rue, ça se... Avec les arrêtés anti-prostitution, ça veut dire qu'on se retrouve on le voit très très bien dans une ville comme Toulouse, on se retrouve dans des lieux extrêmement excentrés, mal éclairés, isolés de toute population, et donc du coup beaucoup plus sujettes aux agressions. Hein. Oui. Et c'est pas les clients qui agressent, hein, c'est les personnes lambda. On connaît beaucoup de violences policières dans la rue, notamment je peux parler du cas des travailleuses du sexe chinoises de Belleville, hein, les Roses d'Acier, qui sont montées en collectif. Elles sont montées au collectif face à un harcèlement policier de plus en plus présent, des reconduites à la frontière, des enfermements en centre de rétention, etc., etc. La pénalisation, le projet de loi de pénalisation des clients aura déjà une conséquence dont on avait prévenu en fait tout le monde, quoi. Mais comme on est dans une société très morale, etc., l'objectif n'est pas en fait celui de nous défendre, mais bien de rayer de la carte aux yeux du citoyen les travailleurs du sexe, quoi. Voilà.
Et alors je sais plus. Oui, par rapport aux migrants, aux migrantes qui se prostituent. Au niveau de la prostitution, je suis pas hyper calée. Mm-hmm. Je le vois beaucoup comme un peu le stéréotype qu'on va chercher des filles dans les pays de l'Est et qu'on prostitue et qui se prostituent la domination de Macrel Macro. Enfin, est-ce que vous, avec le Stras, vous êtes aussi justement à défendre un petit peu ce système
C'est-à-dire que il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour des notions de réseau, de trafic, de traite, etc., etc. On ne sait jamais trop exactement qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là. Donc, déjà à la base on définit ces mots-là, on part déjà de quelque chose. Mais nous, ce qu'on peut voir en fait, il y a des nous de toute manière au stress, on a des personnes migrantes. Ce qui est clair, c'est que les personnes migrantes, mais pas seulement travailler du sexe, pour venir jusqu'en France, pour venir jusqu'en Europe, pour traverser la Méditerranée, s'endettent énormément, elles ont une dette de passage, etc. Donc oui, en fait, les travailleuses du sexe, c'est évident qu'elles ont une dette de passage. Et donc, le travail du sexe fait partie, dans un panel de choix très très réduit, d'un moyen de rembourser ses dettes, un moyen d'envoyer des sous, par exemple, on le voit chez les travailleuses du sexe chinoises, pour les études des enfants, etc., etc. Mais quand on arrive en France, c'est pas des réseaux de trafic sexuel, c'est des réseaux pour on le voit avec il faut prendre aussi en compte par exemple le migrant qui travaille sur les chantiers sans papier, etc., qui a aucune condition de très mauvaises conditions de travail. C'est exactement la même chose pour les travailleurs du sexe en fait. Donc oui, effectivement, il y a des travailleurs du sexe qui subissent de l'exploitation, et il n'y a pas que les migrantes en fait, on subit de l'exploitation, c'est certain. Mais nous, ce qu'on dit, pour subir moins d'exploitation, il nous faut des droits. Et donc du coup, pour avoir accès à des droits, il nous faut la décriminalisation du travail sexuel, mais on demande également en fait des papiers pour les personnes sans papiers, pour toutes les personnes sans papiers, pas seulement les travailleurs du sexe, pour tout le monde, parce qu'une fois qu'on a des papiers, on peut accéder aux droits du travail, on peut s'organiser, on peut se syndiquer, on peut faire plein de choses, etc. Et donc, du coup, on a plus de moyens, plus d'options pour se défendre. Donc, nous, c'est tout ce qu'on dit. Et on le voit très bien comme par rapport au débat. Par exemple, il y a eu un mouvement de lutte de manucure et de coiffeuse migrante africaine à Paris il y a un an, il me semble, à peu près. Toute la gauche, et les syndicats, la CGT, etc., ont soutenu ce mouvement-là et on s'en félicite, et tant mieux, en demandant en fait à ce qu'elle soit régularisée pour qu'elle puisse se défendre et pour qu'elle puisse avoir accès aux prud'hommes, etc., etc. Puisqu'en fait, elle s'était mise en grève par rapport au leur patron qui refusait de les payer et qui les exploitait, c'était des conditions absolument dramatiques. Et bien, quand on parle de prostitution, nous, on n'a pas le droit à exiger des papiers. En fait, voilà, c'est pourtant exactement la même situation. Mais comme on parle de prostitution, on est forcément victime, on est forcément infantilisé par tous ces gens-là, on est forcément mis sous tutelle. Et donc du coup, non, il faut pas leur donner de papier, il faut pas leur donner de droit pour se défendre. Il faut attaquer le client, attaquer, voilà. Nous, on trouve ça complètement aberrant. Pourquoi on nous met toujours dans des cases à part? Alors que nous, on fait partie de la société, on n'arrête pas de le dire, on fait partie de la société, on est dans la société. Mais le fait de nous catégoriser, de nous faire des lois d'exception, nous enfonce en fait. Au lieu de nous protéger, en fait, nous met encore à part et on est du coup beaucoup plus sujette aux exploitations et aux agressions et aux violences. Parce que l'agresseur, il est malin, il va pas aller attaquer quelqu'un qui a les moyens de se défendre, il va attaquer les personnes qui ont le moins de défense. Donc les travailleuses du sexe en font partie. C'est pour ça qu'on est sujette à beaucoup plus d'exploitation et de violence et de viol et de etc. Parce que on n'a pas de moyens de se défendre et l'agresseur le sait quoi. Voilà. Donc il faut nous donner des droits en échange quoi. Donc effectivement pour les migrantes la première chose à faire et c'est pas un aboutissement en soi mais la première chose à faire c'est des régularisations en masse. Mais du coup à partir de là une fois qu'on régularise et une fois qu'on décriminalise le travail sexuel nous on peut s'organiser et se mettre en lutte avec les autres secteurs.
Ouais parce que justement la victimisation de dire il faut plus de prostitution etc c'est l'argument des personnes comme on disait l'autre fois au téléphone des abolitionnistes quoi qui en fait pensent que c'est pas normal qu'une femme vende son corps parce qu'on est dans une société capitaliste, patriarcale, donc il faut absolument abolir la prostitution. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas de réelles questions sur, sur les conditions de vie des prostituées. Et on ne prend pas le problème à la base, quoi. On dit non, il ne faut pas se prostituer, machin. Et puis, en fait, mais est-ce que tu sais que les prostituées n'ont pas de droits? Est-ce que tu sais que... Voilà. Et c'est, moi, c'est ça qui me dérange un peu, quoi, avec... Parce que, du coup, j'ai fait un tour sur Internet en essayant de trouver les arguments des personnes, des abolitionnistes, quoi. Et c'est limite facho, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ça fait flipper un peu, quoi.
Mais c'est-à-dire là que du coup en fait moi je suis d'accord avec toi c'est ce qu'on appelle le stigmate de la putain hein. C'est Gail Peterson qui a théorisé ça la stigmatisation qu'on subit est vraiment spécifique à notre travail et en fait renforce notre exploitation et donc c'est-à-dire que quand les abolitionnistes répètent tous les jours une passe égale un viol voilà c'est leur discours une passe égale un viol non seulement elle nie notre possibilité de se faire violer et de reconnaître un viol parce que oui, on sait très bien ce que c'est un viol. Et en plus de ça, ça nie aussi les victimes de viol. Donc il faut toute cette stigmatisation sur la marchandisation des corps. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est si ou les moins d'exploitation, battons-nous contre la précarité, pas contre les travailleuses du sexe. Il est évident que nous, on ne dit pas, mais on ne dira jamais que c'est un travail comme un autre. Les gens nous prêtent ce discours-là, c'est faux. Nous, on sait très bien, pour le vivre tous les jours, que ce n'est pas un travail comme un autre. On subit la stigmatisation, on subit les violences, on subit les discriminations quand on va dans des institutions médicales, quand on va dans des institutions sociales, etc., etc. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout un travail comme un autre. Et on n'est pas des prosélytes de la prostitution, au contraire. En fait, nous, on dit juste que, vu la situation dramatique dans laquelle on est, donnez-nous des droits et aidez-nous à défendre et venez à nos manifestations pour montrer votre solidarité avec les travailleuses du sexe. Et parce que leur discours de marchandisation du corps, de marchandisation du corps et de trafic, etc., ça, c'est quelque chose qui nous enfonce, quoi. Nous dire tous les jours qu'on est des bouts de viande, etc., c'est extrêmement dangereux pour nous et ça renforce, en fait, la stigmatisation qu'on subit déjà très fortement, quoi. Donc, effectivement, quoi. Et en plus de ça, c'est qu'elles sortent des chiffres, et la plupart des chiffres sont des chiffres de la police. Et la police, en fait, ne se centre que sur la prostitution de rue et essentiellement sur la prostitution migrante. Parce que leur objectif à la police et au gouvernement et à l'État, c'est de faire des expulsions. Donc, il faut, et voilà, quoi. Moi, pour des féministes qui sortent les chiffres de la police, ça me fait un peu bizarre, hein, parce que, c'est extrêmement limité. Et voilà. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est plus nombreux sur Internet. Et l'isolement qui est créé par Internet, parce qu'on est obligé de travailler sur Internet, et le nombre de personnes qui commencent à se prostituer seules derrière son ordinateur et qui vont seules à des rendez-vous, ça, c'est un isolement et qui est renforcé par la stigmatisation, qui est renforcé par les lois, etc. et du coup en fait nous mettre extrêmement en danger quoi. Il faut pas croire que souvent dans la tête c'est oh bah c'est bon sur internet c'est des petites nanas là, qui font ça pour le fun, mais pas du tout, pas du tout. Et du coup la violence via une pseudo sécurité qu'on croit sur internet est extrêmement forte aussi quoi.
D'accord. Eh ben super, je crois qu'on a fait le tour. Si t'as autre chose à dire
Non, bah juste à inviter les gens à nous rejoindre à toutes les manifestations de travailleuses du sexe hein, parce que ça c'est, il faut bien comprendre que notre combat il est extrêmement large parce que c'est un combat contre le racisme, c'est un combat contre le sexisme. Un combat contre les lois sécuritaires et l'ambiance sécuritaire qu'on a en ce moment dans notre pays. Enfin, c'est voilà. Donc moi, on manifeste à Toulouse jeudi 17 décembre à 18h, place Belfort, donc le quartier historique de la prostitution à Toulouse. Il y a aussi une manifestation à Paris, enfin un rassemblement qui est en attente par rapport à l'état d'urgence parce que l'ambiance est encore plus terrible à Paris. Mais c'est c'est à 17h à la place Jean Rostand dans le 19e, dans le quartier Belleville. Et donc inviter les gens à nous rejoindre à chaque fois qu'ils peuvent en manifestation et voilà pour casser en fait notre isolement et notre stigmatisation. Voilà.
Ok, super Marie.
Je vous en prie.
Ouais, merci beaucoup. Et puis peut-être je ferai un tour le 17. Je risque d'être à Toulouse le week-end prochain.
Ah super. Ouais. Et j'en profite pour dire aussi que après on peut nous rencontrer parce qu'on fait une soirée de soutien pour les travailleuses du sexe et le strass dans un bar qui s'appelle le Blind Tiger, qui est 61 rue Parganinière, donc juste à côté du Capitole à Toulouse. Et donc, ça sera l'occasion de discuter, etc. Et les sous qu'on va récolter, en fait, vont permettre de financer les voyages des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, à Toulouse, on organise les rencontres internationales des travailleuses du sexe au mois de juin. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Bonne continuation, bon courage, bonne lutte à vous et puis à très bientôt.
Maintenant que t'es morte, voilà que tu fais la une de fait l'hiver partout. Y'a même pas de nom, tout le monde s'en fout. Maintenant que t'es morte, on verra qui est-ce qui viendra te chercher dans ton trou. Le corps d'une pute, tout le monde s'en fout. We don't play, so don't pretend to be.
Je vous avais dit qu'on s'était battu dans la boue. D'ailleurs, j'en ai encore plein partout sur mes chaussures. Eh bien voilà, le petit débat, il est maintenant.
En gros, l'intro, ce qu'il faut dire, c'est il y a des auditeurs qui nous ont dit que ça serait intéressant qu'on exprime plus fermement que clairement nos positions personnelles.
Rocks! Le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est la prostitution. Donc, on va vous dire ce qu'on en pense de la prostitution un peu.
Ouais, alors juste moi, je précise aux auditeurs, trices, à tout le monde, c'est ma position personnelle, mais je suis absolument pas une... J'ai aucune connaissance technique sur le sujet, c'est vraiment que ce que je porte moi, quoi. J'ai pas... Du coup, ça m'a fait bien stressouille... de dire « Waouh, va falloir qu'on s'affirme et qu'on dise nos positions, nos arguments et tout, et pas juste en discutant comme on le fait d'habitude entre nous et tout. »
La prostitution, qu'est-ce que t'en penses, Chloé?
C'est chaud. Là, comme ça, de but en blanc. La prostitution, il y a plusieurs choses qui se mêlent. Il y a... une dimension morale, souvent, qui est liée à ça. Et pour moi, cette dimension morale, c'est pas le problème. Mais c'est souvent ce qui divise aussi beaucoup les gens là-dessus, donc faut pas non plus nier. En tout cas, vu qu'on est dans le positionnement personnel, c'est pas ça le souci. Pour moi, le souci, ce que j'essayais de t'expliquer la dernière fois, c'est que la prostitution, c'est le commerce sexuel. Donc c'est lié à l'argent. Et du coup, c'est globalement cet aspect-là qui me pose un gros problème, que ça soit par le fait des réseaux organisés, tout ce qui peut se passer à côté, dans la maltraitance qui est liée dans ces réseaux-là. C'est absolument pas cohérent ce que je suis en train de dire, mais bon, bref. Voilà, et les risques sanitaires, tout ça, moi, ça me questionne. Et aussi, la dernière fois, on discutait toutes les deux, toi, c'est ta position à toi. Tu partais plus, tu m'arrêtes si je me trompe, après tu vas parler, plus sur l'aspect choix de la personne.
Ouais. Oui, alors après, je pense que le choix, c'est compliqué de dire... Parce que pareil, hein, moi aussi, je me suis renseignée un peu, j'ai regardé. Je pense que c'est compliqué de dire que c'est un choix. Après, c'est... Enfin, voilà, je pense qu'il y en a qui savent pas aujourd'hui pourquoi elles ont décidé de, à un moment donné, de se prostituer. Peut-être parce qu'elles devaient remplir le frigo, et puis elles l'ont fait une fois, et puis en fait, elles se sont dit, bah, ok, finalement, bah, je continue là-dedans, parce que bah, je fais du fric au travers de mon corps. Après, moi, ce qui me gêne, c'est la victimisation, en fait. C'est qu'on les... Là, dans ce que j'entends, dans ce que tu viens de dire, c'est de les victimiser. Alors, du coup, on parle à la place d'eux, et voilà, au lieu de trouver, de se dire, oui, ok, la prostitution, elle existe, la marchandisation de son corps, on est d'accord, mais après...
Non, on n'est pas d'accord, justement.
Non, mais... On est d'accord pour dire que c'est la marchandisation du corps. Mais si tu veux, un instit, il va gagner sa vie en vendant son cerveau. Un mécanicien, il va gagner sa vie en bossant avec ses mains.
Enfin, et ça me pose tout autant de problèmes si c'est des choix qu'ils n'ont pas fait parce que c'est des choix. Mais là où tu dis... Excuse-moi de te couper, hein, mais là où tu dis... tu parles pour... non, justement... Je peux pas parler pour parce que
j'ai pas dit pour, c'est à la place de.
Mais pour ou à la place de, j'ai aucune connaissance personnelle du sujet, aucune connaissance d'amis ou alors en tout cas qui ne m'ont pas dit qui soit liée à ce sujet-là précisément. Donc ma vision au contraire, elle est que globale, et quand tu parles de victimisation, pour moi, c'est pas de la victimisation de reconnaître que dans plein de pays dans le monde, il y a quand même une exploitation sexuelle de masse, quoi. Les femmes qui sont migrantes, des femmes, mais même pas que. Enfin, c'est.
Ouais. Mais du
coup, pas non plus pour moi nier ça non plus dans l'aspect prostitution.
Mais en fait, c'est toujours. Alors en ce moment, je suis un peu là-dedans. C'est tant qu'on se dit, il se passe ça, la prostitution avec les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe, les viols, les coups, même parfois allant jusqu'au meurtre. On se pose pas de réelles questions en fait sur quels droits elles ont, quoi. Et la prostitution, je pense qu'elle a toujours existé et qu'elle existera toujours, quoi. N'importe quel système dans lequel on soit, que ce soit un système capitaliste ou un système...
C'est là où je suis pas d'accord avec toi.
Je pense que la prostitution, elle sera toujours là. Et en fait, je finis et après tu m'expliqueras ton point de vue par rapport à ça. Mais voilà, on dit oui, la prostitution, la marchandisation du corps, c'est vilain, c'est moche. Mais est-ce que on se pose la question réellement des conditions dans lesquelles sont les putes aujourd'hui, où c'est déjà elles galèrent pour trouver un logement, parce que si elles disent qu'elles sont prostituées, le proprio il peut être hyper frileux et se dire non, moi je loue pas mon appartement à une prostituée parce que je peux être accusée de proxénétisme. Alors après, je pense que c'est pas tous les jours que ça se passe, hein. Ça, l'accès à la santé, sécurité sociale, etc. Enfin, c'est. Je vais pas jusqu'à vendre son corps, ça me gêne ou ça me gêne pas, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans l'état actuel des choses. Enfin, voilà, c'est. Ok. Que les prostituées et les travailleurs et travailleuses du sexe aient les mêmes droits que n'importe quel citoyen qui travail, quoi. Enfin voilà, je trouve ça inadmissible de dire, eh ben non, on va pas louer un appartement à une pute, quoi. Eh ben non, on va pas lui vendre du pain, parce que si on vend du pain à une pute, eh ben on va se dire, ah ben oui, mais j'ai vendu du pain, il y a eu un échange de monnaie, donc je peux être accusée de proxénétisme, quoi. C'est ça qui me gêne, en fait, moi. Voilà. Au-delà de la marchandisation du corps. Voilà, peut-être je pense pas assez global, je pense peut-être plus humain, quoi, en fait. Voilà.
Merci. Merci. C'est sympa. Non, mais après, moi, c'est. Enfin. C'est comme je te l'avais déjà dit avant, sur le sujet, j'en connais pas spécialement des masses.
Mais moi non plus, hein.
Et effectivement, ça me semble. Mais c'est. Dans mon idée globale, merci de me dire que je pense pas humain, mais...
J'ai pas dit que tu pensais pas humain.
Ouais, toi. Mais c'est un peu ça derrière, quoi.
Non, c'est...
Attends, ouais, juste, voilà, du coup, j'essaye de reconstruire. Tu vois, j'avais peur que ça parte là-dedans, dans le non, machin. Mais évidemment, faut lutter pour les droits. Faut lutter pour les droits de la personne. Et lutter pour les droits des salariés, c'est aussi, si les prostituées sont salariées... effectivement, elles en vivent, donc avoir des syndicats, avoir quelqu'un qui te représente, mais ça fait partie. Mais là où moi je te dis, ça me questionne plus globalement, quand toi tu parles de choix, parce que tu parlais de ça quand on en parlait hors enregistrement, j'allais dire hors antenne, ouais. On n'est pas à l'antenne, quand tu parles de choix...
En fait, je dirais plus que c'est voulu ou pas voulu, enfin, c'est peut-être le choix...
Mais voilà, mais c'est... Moi, ce qui me questionne, c'est commerce sexuel. Tu vois, c'est comme on en arrive là. Après qu'il y ait des personnes qui aient envie de le faire, ok, mais est-ce que dans le système économique actuel dans lequel on est, c'est un choix? Tu parlais tout à l'heure du prof, tu parlais tout à l'heure, on a un petit passage de chien qui vient ajouter son truc à la conversation là. Tu parlais tout à l'heure du prof, tu parlais tout à l'heure des gens qui, pour toi, c'est du même niveau quand ils vont travailler. Mais oui, totalement, c'est le rapport à l'argent. On est dans un monde capitaliste, un monde où c'est ce rapport-là économique qui prévaut, mais ce rapport-là économique, c'est aussi un modèle social. Et quand après, tu continues en parlant de tout, le proprio, le machin et tout, qui veut pas. Mais ça fait partie du domaine social, du monde dans lequel on est aussi.
Oui, social et politique, parce que la loi contre le proxénétisme, elle existe bien, quoi. Voilà. Donc c'est politique. C'est parce que et des premières victimes des lois contre le proxénétisme, des lois pour la pénalisation des clients. Les premières personnes touchées directement, c'est les prostituées. Alors on se dit on va protéger, alors non, mais c'est même pas protéger, bon, c'est même pas on se dit, c'est une histoire de morale, une histoire de boue, c'est pas beau la prostitution, on va cacher ça.
Ouais, mais ça on s'en fout, je t'ai dit, la morale, on peut la mettre où on veut. Quand tu dis c'est les prostituées qui sont touchées...
Ben en première ligne.
Mais oui, mais parce que mais c'est pas que les prostituées, c'est toutes les personnes en situation, on va dire, tu vas encore peut-être me taxer de victimisation, mais toutes les personnes... quelque part qui sont dans des situations où elles sont de quelque part de soumission, de faibles, soit parce qu'elles n'ont pas les droits sociaux vu qu'elles sont pas reconnues comme salariées ou autres, soit parce que il y a les personnes qui viennent, je te parlais des migrantes tout à l'heure, qui viennent en France, qui se retrouvent à faire bobonne à la maison, enfin c'est parce qu'elles n'ont pas eu le choix non plus, alors ça peut être bobonne à la maison, ça peut être aussi prostitution, ça peut être des boulots alimentaires, c'est toutes les personnes qui sont en situation difficile que ça touche. C'est pour ça que moi, c'est un problème sociétal et socio-économique. C'est trop réducteur de le réduire à une seule catégorie. Tout le monde a des problèmes. Et alors après, oui, mais... ça n'empêche pas qu'il faille lutter aussi pour les droits des prostituées. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est plus en fédérant toutes les luttes qui a une chance d'arriver à quelque chose. J'ai complètement perdu le fil de mon argumentation. Là, je suis partie dans tous les sens. Mais...
Bon, là, c'est une émission sur la prostitution, donc c'est un peu nos positions là-dessus. Oui. Je pense clairement que le 17, comme je dis, enfin comme vous entendrez dans l'émission, le 17, il y a cette fameuse marche le 17 décembre de la de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Et ça, c'est une lutte pas, enfin voilà, dans les violences, c'est les violences racistes, les violences racistes, les violences c'est en fait le but, je pense, c'est d'essayer d'agir ensemble. Voilà, c'est partir d'un état des lieux. Et je vais me répéter, mais je pense clairement que la prostitution, elle sera toujours là, n'importe quel système que ce soit. N'importe quel système que ce soit, la prostitution, elle sera là.
Ouais, mais après, traite-moi d'utopie si tu veux, mais j'ose espérer que... Et ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans le genre de système, parce que ce n'est pas l'objectif de cette émission-là, mais que dans un autre système dans lequel on serait, ben, ce serait un système plus égalitaire, et qui permettrait justement d'avoir plus cette question de choix-là, qu'elle soit vraiment là, et que ça ne soit pas une contrainte économique ou une contrainte sociale qui amène à la prostitution, que ça soit vraiment un choix. Et mon impression, c'est que quand tu me parles des profs et tout ça, mais c'est ça... C'est ça aussi, de travailler à l'usine, de travailler au supermarché. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Tout le monde se débat pour survivre. Chacun trouve ses solutions. Et ça peut être celle-là. Et après, effectivement, moi, je fais partie des chanceuses qui ont eu le choix de leur travail, qui ont réussi. Et peut-être, et j'espère, qu'il y en a dans aussi...
Qui ont réussi, c'est pas parce que t'es pute que tu réussis pas.
Mais c'est bien ce que je suis en train de dire, là.
Non, mais t'as dit que je fais partie des chanceuses de celles qui ont réussi.
Oui, mais c'est ce que je suis en train de finir ma phrase, de dire. Et j'espère que aussi, même aujourd'hui, il y en a qui ont fait le choix et qui réussissent aussi dans le domaine de la prostitution. Mais ça veut pas dire que c'est tout le monde.
Oui, après, la prostitution, il y a... dans les pays de l'Est et qu'on ramène sur les trottoirs et qui sont dirigés par des macs et qui n'ont pas le choix et qui sont tapés sur la gueule et voilà, c'est là aussi moi c'est le côté de la prostitution qui me gêne quoi. Voilà, c'est ce côté là où justement on va chercher des nénettes qui ont à peine la majorité et qu'on ramène sur les trottoirs ou des escort girls ou voilà hein, mais c'est qui en fait on tire les ficelles au-dessus des mac meufs et des je sais pas comment on dit les mac meufs maqueuses maquerelles ouais voilà merci les maquerelles et là ça me gêne ouais et c'est là aussi à mon avis où on devrait c'est pas mais l'État devrait prendre ses responsabilités, en fait...
Ouais, mais c'est là où, moi, ça me fait peur, quand tu dis l'État devrait prendre ses responsabilités, c'est là où on en revient à ce truc de morale que tu disais.
Oui.
Nous, de le forcer à prendre ses responsabilités, et à les prendre comment, aussi. Parce qu'on rentre encore une fois dans ce truc de morale, où il va y avoir, dans ce cas-là, on n'a qu'à l'interdire, ou la loi qui est en cours, là,
mais parce que,
de pénalisation...
Parce que, mais c'est ça, en fait, la prostitution, c'est pas beau, quoi. La prostitution, c'est moche. Alors que non, c'est pas moche, quoi.
Non.
Et quand on fait chier les putes parce qu'on va pénaliser les clients, du coup, on va pénaliser les clients. Donc, soit le mec, il va plus aller voir les prostituées, ou soit il va y aller, mais ça va être un peu plus craignos parce que il va se dire, on va aller dans un petit coin tranquille. Et ce qui fait que, du coup, la prostituée ou le prostitué, il se retrouvera en danger. Ou au niveau sécurité et c'est tout ça qui à mon avis enfin voilà c'est ça fait chier quoi enfin ça fait chier et quand je dis c'est moral oui parce que on essaye de tout cacher alors les putes on les victimise en disant mais c'est il faut plus qu'il y ait de putes parce que du coup on va les faire chier avec ces putains de lois là con là et voilà et oui c'est à l'État de faire quelque chose quoi c'est
Après, un autre aspect dont j'avais discuté avec toi qui me questionne, c'est, je t'avais expliqué, j'ai beaucoup joué les monologues du vagin avec mon ancienne troupe de théâtre. Et les monologues du vagin, c'est très daté, le texte, années 70. Et le seul monologue d'une prostituée qu'il y avait, c'était exactement ce que tu disais, une prostituée qui avait fait ce choix-là de l'être, qui était une ancienne avocat, mais... qui se trouvait plus son épanouissement là-dedans, et c'était super ce monologue-là. Mais par contre, c'était que ce monologue-là, donc une vision très années 70 de liberté de son corps, de choix de la femme, on en revient au féminisme. Et aujourd'hui, avec les telles violences qu'il y a par ce, j'en reviens encore une fois, hein, au système économique, mais aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. On n'est plus dans ces années-là, on n'est plus du tout dans le même contexte et je sais plus ce que je voulais dire parce que tu me fais chier. Balou. Bon, ben vous vouliez l'imposition.
Ouais.
On en a pris plein. Dans tous les sens.
Position.
Bah écoute, je reviens en cliché.
On a pris plein de positions. Il paraît que dans la vie, il faut en avoir plusieurs.
Ouais.
Des positions. C'est bien.
La diversité.
Voilà. En tout cas, c'est un sujet très intéressant.
Et puis, on a eu un autre passionné par la discussion que vous avez dû entendre, qui se passionne beaucoup pour le micro aussi, on dirait. Hein, Balou ?
Les Cyprinettes vous guettent sur Radio Larzac. La boîte de Pandora. Voilà, alors aujourd'hui dans la boîte de Pandora, le fameux « Je déteste » avec des témoignages anonymes récoltés aux alentours de Radio Larzac, à Millau, enfin...
Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de passages vers chez nous.
Ben,
donc,
oui, voilà. Et n'hésitez pas à passer encore. Hein, enfin,
soyez pas timide.
Voilà, plus on est de fous, plus on rit.
De folle.
De folle. Allez, c'est parti pour les « Je déteste ».
Je déteste les pubs sexistes. J'aime pas faire la vaisselle. Ah non, faut dire, je déteste faire la vaisselle.
Tu peux dire.
Je déteste quand on dit, est-ce qu'il y a des hommes forts pour porter des trucs lourds?
Ouais, ou qu'on dit, bah moi je suis dispo si tu veux pour le déménagement. Ah non, mais il faudrait des hommes forts.
Je déteste les pubs pour les serviettes hygiéniques et les tampons.
Je déteste quand on me dit, oulala, mais t'es vénère, t'as tes règles ou quoi?
Je déteste quand on me dit, oui non mais écoute, vous c'est normal, vous avez l'instinct maternel.
Ah oui, et je déteste quand on dit qu'une femme, elle doit être douce.
Et soyeuse.
Ça, là, tu parles du poil, non?
On y revient encore au poil.
Oui, Chloé, vive le poil, on a compris.
Chloé, sors de ce corps.
Chut, on m'a dit que c'était anonyme.
Ah oui, c'est vrai. Je déteste, mais grave ça, je déteste, pendant les fêtes de Noël, qu'il y ait des rayons pour les filles avec des poupées, des costumes de princesses, des cuisinières, et des rayons pour les garçons avec des voitures, des caisses à outils, des circuits de rallye.
Bordel, mais moi aussi je veux des tournevis.
Je déteste que le rideau de douche vienne se coller contre ma peau.
Ah, c'est bien un truc de fille, ça. Moi je déteste quand je vais aux toilettes et que je m'assois sur la cuvette et qu'il y a de la pisse.
Ah ouais, non, voilà. Mais ça...
S'il vous plaît, levez la cuvette.
Relevez la cuvette, oui, madame, mais rebaissez-la.
Monsieur.
S'il vous plaît.
Ou alors pissez assis.
Aussi.
Au niveau du bassin, on est un peu flexible de la même manière, je pense.
Oui.
Debout, fameuse esclave.
Nous arrivons à la fin de cette 3Z des Cyprinettes. Merci Radio Larzac, merci Marie-Jeanne. Et à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.
Et merci à vous, Chloé et Mimi, d'être là pour nous.
Bisette des Cyprinettes. Non mais moi je dis jamais de bêtises, hein. Je suis toujours sage, Marie.
Surtout pendant le générique.